tout d'abord une annonce. La semaine prochaine, c'est une semaine de vacances dans l'Université de Paris. Donc il n'y aura pas de cours mercredi prochain. Et le prochain cours aura lieu donc dans 15 jours, le 2 mars. Une autre annonce, on m'a signalé un roman qui pouvait être considéré comme un roman du vivre ensemble. Ce serait le roman de Gorki, qui a été traduit en français sous le titre « Les Estivants ». Il s'agit d'intellectuels qui vivent dans une datcha pendant l'été. Donc, la dernière fois, j'en étais à l'article « Chambre ». Chambre au sens de chambre individuelle et non pas chambre conjugale, ce qui équivaut donc au grec monastique « kelion » ou au latin « cella », »,« cella », »,« cellule ». Et pour parler de cette chambre, j'avais proposé de partir du thème du lieu total et de la maison dans sa relation avec le sacré. Et j'étais en train d'indiquer que dans l'Écriture, c'est-à-dire dans la Bible, il y avait trois grandes formes architecturales qui figuraient ce lieu total en relation avec le sacré. Et j'avais indiqué la première de ces grandes formes, à savoir l'Arche de Noé, dans laquelle on peut voir, disons, le prototype ou le modèle de tous les domaines ruraux qui sont soumis à une économie autarcique. Ça, c'est la première forme qu'on trouve dans l'Écriture, c'est l'Arche de Noé. La seconde forme qu'on trouve, c'est le tabernacle. Le tabernacle du désert, ce qui, en grec, se dit skéné, skéné, la scène, skéné. Skéné, en grec, veut dire en effet, non pas d'abord scène au sens français, mais ça indique une tente, un pavillon, une habitation et précisément un tabernacle. Le tabernacle, c'est-à-dire la tente sous laquelle repose l'Arche de l'Alliance dans le désert. Mais aussi, il y a d'autres sens du mot skéné qui sont intéressants. Skéné, c'est précisément la tente qui abrite les repas de compagnons et c'est aussi l'abri des acteurs dans le théâtre antique, d'où le sens moderne de scène. Alors, l'idée thématique, l'idée thématique qui est dans le tabernacle, c'est, si vous voulez, l'idée d'un lieu central vide autour duquel sont disposés radialement des bâtiments d'habitation. En effet, autour du tabernacle étaient disposées les 12 tribus d'Israël. Et donc, il y avait une sorte de radialité des groupes autour d'un centre inhabité. Et je pense que comme prototype, le tabernacle, c'est-à-dire skéné, représente le principe même des organisations idiorythmiques. Le mot organisation, d'ailleurs, ne me plaît pas beaucoup. J'aimerais mieux un terme moins volontariste pour l'idiorythmie. Peut-être, on pourrait dire, les constellations idiorythmiques. En effet, dans le désert de Nitrie, près d'Alexandrie, c'est-à-dire là où il y avait des colonies d'anachorètes, sur le mont Athos, nous l'avons vu, et même dans les béguinages, et même dans la structure de Port-Royal des Champs, au XVIIe siècle, on trouve cette espèce de constellation autour d'un centre vide, qui évidemment dans le monde chrétien est l'Église, enfin vide au sens de vide d'habitants, autour de ce centre vide, qui peut être l'Église ou qui peut être simplement le lieu des repas, se dispose des bâtiments d'habitation. C'est donc, à mon sens, la skéné, le tabernacle, qui serait le prototype des espaces idiorythmiques. La troisième forme qu'on trouve dans l'Écriture, après l'Arche de Noé et le tabernacle, c'est le Temple de Jérusalem, qui est conçu ou qui est représenté fantasmatiquement par l'adjonction du temple de Salomon à Jérusalem et de deux visions d'Ézéchiel. C'est, je crois, là le fantasme vraiment du bâtiment total. Le temple de Salomon comprenait les résidences des prêtres et le palais de Jérusalem. Et je pense que c'est le temple de Salomon qui doit être considéré, disons, comme le prototype symbolique de toutes les architectures conventuelles. Le temple de Salomon, eh bien, comme un grand couvent, ça représente un lieu réservé, total et multifonctionnel, où toutes les fonctions de la vie sont concentrées. D'ailleurs, ce temple de Jérusalem, il a essaimé symboliquement dans de nombreuses architectures historiques et notamment dans des palais de rois. Le palais de Charlemagne, qui abritait toute sa cour, était rattaché symboliquement au temple de Jérusalem. Et l'exemple le plus connu, bien entendu, de cette sorte d'incarnation historique du temple de Jérusalem, c'est, sans doute certains d'entre vous le savent, c'est l'Escorial. L'Escorial, vous savez, c'est ce bâtiment qui n'est pas loin de Madrid, au nord, qui a été la conséquence d'un vœu du roi Philippe II sur l'issue de la bataille de Saint-Quentin. Tout ça est connu, enfin je veux dire que ça existe dans même dans le petit dictionnaire Larousse. Vous trouverez la mention de ce vœu qui a été fait le 10 avril 1557. Et la date est importante parce que ce palais de l'Escorial est orienté selon le coucher. J'ai dit 10 avril, c'est 10 août, n'est-ce pas? Pardonnez-moi. Le 10 août 57, date importante parce que l'Escorial a été orienté selon le coucher du soleil au 10 août. Et le 10 août, c'est la fête de qui? Eh bien, c'est la fête de Saint-Laurent. Et l'Escorial a donc la forme d'un grill, puisque Saint-Laurent a été grillé, comme vous le savez aussi. Donc, tout ça est plein d'un symbolisme extrêmement riche. Et il y a eu plusieurs architectes à l'Escorial. Et le second architecte, qui s'appelait Herrera, H-E-R-E-R-A, disons que le travail de Herrera a été théorisé par son disciple qui s'appelait Villalpanda, V-I-L-L-P-A-N-D-A. Et je dis tout cela parce qu'il s'agissait d'un milieu, et même Philippe de lui-même était des esprits très, très attachés à la pensée ésotérique et symbolique de Raymond Lull. Et donc, dans l'Escorial, on trouve tout un symbolisme, tout un chiffrage sacré, et dont le centre, le pivot de ce chiffrage centré, c'est le temple de Jérusalem, avec les tribus autour du tabernacle, l'Escorial étant à la fois monastère, palais et église. Donc voilà pour, disons, les formes sacrées du bâtiment total. Alors maintenant, dans notre progression vers la chambre individuelle, il nous faut, si je puis dire, descendre d'un cran et voir qu'à un certain moment, symboliquement, la chambre va s'isoler dans ce bâtiment total. C'est-à-dire la chambre va devenir un lieu symbolique, isolé dans la maison, mais isolé aussi de la maison, dans et de la maison. Il y a donc à ce moment-là, seconde étape, première étape si vous voulez, il y a dissociation du lieu total, il n'y a plus confusion de la chambre et de la maison, et la chambre devient un lieu symbolique autonome. Ce stade-là représente évidemment le stade de la chambre conjugale. C'est la chambre conjugale qui prend cette relève symbolique, cette fonction symbolique. Ça serait un très gros dossier à ouvrir. Moi, je ne fais que marquer des dossiers, finalement, dans ce cours, c'est pas sans les remplir. Et là, le dossier qui serait à ouvrir, ce serait évidemment le dossier du rapport entre la conjugalité et la propriété. En effet, au moment où la chambre conjugale devient un lieu à part dans la maison, il y a la chambre appartient au couple sous ces trois espèces, le mari, la femme, le père, la mère, et le maître et la maîtresse. C'est pas ? Cette chambre conjugale, c'est un lieu qui, dans les civilisations archaïques, notamment grecques, est un lieu qui est gardé. C'est un lieu qui est gardé comme secret, c'est un lieu du secret, et ici, bien sûr, il faudrait articuler tout le thème de la scène primitive, c'est un lieu du secret, et c'est un lieu du trésor, la chambre conjugale. C'est là où on dépose les choses les plus précieuses. Et bien entendu, ce serait intéressant de postuler une liaison entre la scène primitive, le secret et la propriété. Nous avons une bonne image de cette chambre conjugale qui est à la fois une chambre de trésor dans l'économique de Xénophon. C'est un livre de Xénophon qui représente, disons, pour parler moderne, le point de vue de la petite aristocratie terrienne de l'Attique. Et c'est un livre qui décrit l'économie générale d'un domaine rural moyen. Or, comment s'appelle en grec la chambre conjugale, qui est aussi la chambre du maître et de la maîtresse du domaine? Ça s'appelle l'article thalamos, avec un θ, n'est-ce pas? Thalamos, θ, thalamos. Au thalamos. Or, ce qui est intéressant, c'est que dans Homère, le mot thalamos veut dire magasin. Le mot thalamos veut dire d'abord magasin, et puis ensuite chambre à coucher. Et Xénophon décrit le thalamos comme étant placé dans la partie la mieux close de la maison, c'est-à-dire dans l'appartement des femmes. La chambre à coucher du maître et de la maîtresse sont dans l'appartement des femmes et on y met les biens les plus précieux, à savoir à l'époque les couvertures et le mobilier. Le mobilier mobile, comme son nom l'indique. Et je dirais qu'encore de nos jours, il y aurait une enquête à faire, mais peut-être a-t-elle été faite, je ne connais pas les derniers développements de la sociologie écologique, n'est-ce pas ? Mais disons que ça pourrait être un sujet d'enquête dont les résultats, en tout cas personnellement, m'intéresseraient, ça serait de savoir ce qu'est devenu dans l'appartement de la civilisation actuelle, de la civilisation technicienne, de la civilisation de la culture de masse, etc., de ce qu'est devenu la chambre à coucher conjugale en tant qu'elle peut être encore une chambre de trésor, c'est-à-dire une chambre qui est liée au thème de la propriété. Et il se peut que, vu la réduction progressive des places d'habitation, ce soit simplement un lieu particulier dans la chambre à coucher qui est maintenant cette fonction de trésor, qui est peut-être simplement l'armoire à glace. C'est pas ? Il faudrait donc faire une sociologie de l'armoire à glace pour savoir exactement à quoi elle sert. Et si on continue, si le ménage ou le couple continue à y déposer des objets précieux qui ont un rapport avec l'idée de trésor et de propriété, c'est-à-dire soit l'argent, bien sûr, soit l'échiquier, soit aussi les papiers d'identité, n'est-ce pas, qui sont un objet de propriété. Bon, je ne veux pas faire de rappel biographique facile, c'est-à-dire que chacun pourrait en faire, mais je sais très bien que dans mon enfance, dans la maison qu'occupaient mes grands-parents en province, à Bayonne, eh bien, dans la maison de la mère de mon père, il y avait effectivement une grande armoire qui n'était pas à glace, c'était un meuble ancien, et qui était bourrée de toutes les choses réputées précieuses, elle ne l'était pas beaucoup à vrai dire, de toutes les choses réputées précieuses détenues par le foyer. Et qu'est-ce que c'est que les choses précieuses? Eh bien, je dirais, la définition en est très simple, ce sont les choses dont on s'imagine mythiquement qu'elles peuvent être volées. Et par conséquent, dans l'armoire de cette grand-mère, il y avait pêle-mêle des petites cuillères en argent et des pots de confiture. Parce que ça peut être volé. Donc, pour en revenir à notre thème, dossier à ouvrir, formulé par moi maintenant d'une façon un peu artificielle, un petit peu accrocheuse, je le reconnais, mais après tout, les idées de recherche, ça commence souvent comme ça, c'est le rapport au plan écologique, n'est-ce pas, au plan architectural, écologique, le rapport entre le trésor, c'est-à-dire le cœur même de la propriété, et le sexe. Et il faudrait là reprendre et mettre dans ce dossier non seulement donc des enquêtes de type sociologique, si elles existent, mais aussi tout un dossier mythique, mythologique, folklorique, et reprendre tout le thème dans les contes populaires, le thème très riche de la chambre secrète, comme par exemple la chambre de Barbe Bleue. C'est donc ça le premier stade, enfin le deuxième point qui est le premier stade, c'est le moment où de la masse du bâtiment total se détache un lieu symbolique particulier qui est Thalamos, la chambre à coucher conjugale qui est en même temps chambre du trésor. Et donc maintenant c'est la seconde étape ou le troisième point, c'est lorsque la chambre se détache du couple. Lorsqu'elle cesse d'être conjugale, lorsqu'elle devient par conséquent individuelle ou célibataire, n'est-ce pas ? Il ne faut pas oublier, nous allons retrouver le mot un peu plus tard, je ne sais pas, vers le mois d'avril, je suppose, nous allons trouver le mot monakos, moine, n'est-ce pas ? Qui ne veut pas dire à proprement parler qui est seul en général, n'est-ce pas ? Qui veut dire qui est célibataire. Monakos, c'est la solitude par rapport à la conjugalité. Alors, cette chambre individuelle qui n'est plus conjugale, c'est précisément ce qu'on appelle en latin « quella », celle-là, C-E-2-L-A, la cellule. Peut-être il n'est pas très bon d'ailleurs de traduire par cellule. Alors, maintenant donc quelques mots sur cette chambre individuelle comme lieu symbolique. L'origine historique de l'acte, qu'elle a, c'est-à-dire de la cellule, c'est évidemment la cabane des ermites, la cabane érémitique dans le désert. Et aussi, lorsque celui qui a fondé en tout premier lieu un monastère, dont j'ai déjà parlé, à savoir Pacôme, qu'il a fondé en Égypte le premier couvent, eh bien à ce moment-là, dans ce début, les moines, dans ce couvent pacomien, ne dormaient pas en dortoir, ils avaient encore des cellules. D'ailleurs, il y a bien des monastères où les moines ont des cellules. Donc, l'origine de la cellule, c'est évidemment la cabane de l'ermite. Alors, évidemment, la cellule qu'elle a, c'est une représentation symbolique, disons, de l'intériorité. D'où l'ambivalence au sens propre, c'est-à-dire la double valeur de la kella. D'une part, la kella, la cellule, est considérée comme un lieu difficile, dur, dangereux, comme le lieu où le sujet, à savoir l'anachorète, l'ermite ou le moine, tient un combat extrêmement âpre, tout seul, contre les démons. C'est le lieu du combat démoniaque, de ce qu'on appelle en latin certamen, le combat anachorale de l'anachorète. Combat dans lequel le sujet humain lutte corps à corps avec le démon, solus cum solo. Voilà, ça c'est la première face de la cellule, lieu du combat démoniaque. Mais il y a naturellement un second versant qui est le versant bénéfique de la cellule. La cellule représente une intériorité que l'on peut dire pacifiante. La cellule apaise. La solitude de la cellule, je n'ose pas dire cellulaire puisque ça renvoie à l'univers carcéral, n'est-ce pas ? mais la solitude, si je peux employer ce néologisme, camérale de la chambre, a une fonction pacifiante. Et c'est ce qui s'exprimait dans le proverbe latin des moines, quella continuata, la cellule sans interruption, dulcecit, adoucit, pacifie, adoucit. Et je cite tout de suite un mot de Rilke qui dit la même chose, si l'on peut dire, en transposant l'idée de cellule dans l'intériorité du sujet humain. Rilke écrit « C'était au fond de lui-même qu'il portait l'obscurité, le refuge et la tranquillité d'une maison. » Donc, et là est donné très clairement l'équivalence symbolique entre le cœur de la maison, la chambre comme refuge dans la maison, et l'intériorité de l'esprit comme refuge. Alors, tout cela se poursuit le long de l'histoire. Il y a toujours une ambivalence historique du thème de la chambre solitaire. D'une part, la chambre, c'est le symbole de ce qui enferme, et donc de ce dont on veut sortir, avec le mot pascalien sur les hommes qui sortent, tout le malheur, je ne sais pas citer, n'est-ce pas exactement, mais tout le malheur humain vient de ce que l'homme ne sait pas rester seul dans sa chambre, n'est-ce pas, et qu'il veut sortir pour se divertir. Et puis aussi, c'est aussi, si vous voulez, dans un ordre plus littéraire, le thème de ce que Flaubert appelait la marinade, c'est-à-dire l'épreuve de la stérilité de l'écrivain enfermé dans sa chambre quand il ne trouve rien à écrire, mais aussi, n'est-ce pas, d'une façon ambivalente, c'est le symbole de l'abri, du ressourcement d'identité qui est sensible dans le fait que ne pas avoir sa chambre à soi est considéré comme une lésion, est souvent considéré comme une lésion de la personnalité, et que avoir sa chambre à soi est un seuil d'initiation pour l'adolescent ou l'adolescente. Alors, la version laïque de cette intériorité camérale de la chambre comme valeur, c'est cette valeur laïque qu'on appelle le « quant à soi ». La chambre, c'est le lieu du « quant à soi ». La chambre, c'est en effet, la chambre individuelle, c'est un lieu de fantasmatisation en tant qu'il est protégé. C'est là où je peux avoir des fantasmes et qu'ils soient protégés. C'est donc ce qui est soustrait à la surveillance. Et comme je l'ai dit, le combat pour la chambre, dans certaines familles, équivaut à un combat pour la liberté, qui peut être un combat très âpre dans certains milieux familiaux. Et on peut dire que dans une certaine mesure, la chambre représente une sorte de lieu ou de force même anti-grégaire et peut-être même une sorte d'espace plus ou moins laïcisé, une sorte de volonté de puissance. Et à l'inverse, bien entendu, ce qui n'est pas la chambre, ce qui détruit le quant à soi de la chambre, est perçu immédiatement comme offensive ou répression du pouvoir. Par exemple, il y a une sorte de doctrine architecturale actuelle qui fait qu'avec les meilleures intentions du monde, c'est-à-dire ce qui s'est passé à Beaubourg, quand un architecte fait les plans d'un vaste lieu administratif où normalement il y aurait eu, il y a 50 ans, des bureaux séparés, cloisonnés, n'est-ce pas, comme des chambres. Vous savez que maintenant, la doctrine, c'est d'ouvrir toutes les parois, de mettre tous les employés dans un vaste hall, séparé par des sortes de très petits éléments mobiles. Pourquoi cela? C'est ce qui se passe donc justement à l'étage, au niveau administratif de Beaubourg, et c'est l'architecte américain de Beaubourg qui l'a fait, ou anglais, je ne sais plus, Rogers, qui a fait cela, en conformité avec les doctrines architecturales actuelles, à savoir que la transparence supprime la surveillance. La transparence supprime la surveillance, supprime entre guillemets, n'est-ce pas? Parce que ça veut dire que tout le monde surveille tout le monde. Et en plus, bien sûr, si vous supprimez les cloisons, il y a une rentabilité de l'espace accrue. Donc, cette transparence est à ce moment-là un instrument ou une disposition répressive par laquelle la chambre, la vieille chambre, représente une défense de l'intériorité, c'est-à-dire, parce que l'intériorité n'est pas toujours forcément de type spiritualisant, l'intériorité, c'est peut-être simplement le pouvoir de fantasmer. Donc, là se pose un problème que je vais évoquer. Est-ce que la chambre individuelle, c'est-à-dire la cellule, la cella, l'espace du quant à soi, est-ce qu'il doit être luxueux? Quel rapport doit-il avoir avec le luxe? Ben, je dirais qu'à mon sens, historiquement en tout cas, ce ne semble pas être un problème pertinent. Certes, les cellules monastiques de la chrétienté étaient soumises à des marques d'ascétisme et de pauvreté. Par exemple, dans ce roman de Zola que je considère comme l'un des plus grands romans de Zola, qui est un roman du début de l'œuvre de Zola, qui s'appelle La conquête de Plassans, il y a la description de l'abbé Faublas, qui est un abbé à la fois intrigant, arriviste et très ascétique, et sa chambre, qu'il prend en location chez un propriétaire qui est mouret, de cette ville de Plassans, qui est en fait, vous le savez, la ville d'Aix-en-Provence, et mouret, qui est donc le propriétaire qui loue cette chambre, est dévoré de curiosité pour savoir comment est la chambre de l'abbé Faublas. Et un jour, il réussit à la voir et il constate que c'est une chambre, en tant que chambre d'un prêtre précisément, c'est une chambre entièrement sobre, qui n'a aucune décoration, mais surtout aucun objet personnel, c'est-à-dire rien qui traîne, parce que traîner, c'est un signe de volupté, n'est-ce pas ? Un objet qui traîne, c'est un objet d'un sujet qui est perméable à la volupté. Et toute cette chambre de l'abbé Faublas est décrite comme un lieu nu, entièrement ascétique. Je cite, n'est-ce pas ? « Pas un papier sur la table, pas un objet sur la commode, pas un vêtement au mur, le bois nu, le marbre nu, le mur nu. » Voilà l'idéal, donc, effectivement, de la chambre ecclésiastique comme chambre qui a rejeté tout luxe. Mais, ce n'est pas parce que nous sommes habitués à cette conception de la nudité cellulaire dans l'Occident chrétien que tout se doit se passer ainsi dans le monde entier. Par exemple, dans les monastères bouddhistes de Ceylan, les cellules des moines bouddhistes témoignent d'un certain souci du confort et même du luxe, n'est-ce pas? Il n'y a pas prescription d'austérité. Par exemple, ce sont des cellules où il y a des meubles avec des petits coussins sur les meubles, des petites couvertures blanches, une pièce de toile blanche fine et propre, une armoire avec quelques livres, une radio, des photos. Ça rappelle un peu, j'imagine, la cellule de Charlot dans la prison des temps modernes. C'est-à-dire, c'est une cellule qui est, ou une chambre qui est marquée par un certain épicurisme, c'est-à-dire peu de choses, d'accord, mais bien. Alors, je dis que ce problème du standing de la chambre n'est pas pertinent. Ce qui est pertinent dans la chambre individuelle, c'est-à-dire dans la cella, c'est le problème de la structure de cette chambre, de ce lieu. Et ce qui est pertinent, c'est le fait que la chambre individuelle jouit d'une autonomie complète et absolue de sa propre structure. La chambre est sa propre structure et elle est coupée de toute autre structure adjacente. Naturellement, une chambre, même très individuelle, est toujours plus ou moins structurée. Je veux dire que j'entends par structure de chambre une constellation, disons une espèce de réseau, de graphes, de réseaux très souples, topologiques, des lieux fonctionnels de la chambre, c'est-à-dire le lieu pour dormir, le lit, la table éventuellement de travail et des points personnels de rangement. Et toute chambre comporte cette structure-là, c'est-à-dire qu'elle a ses points répartis dans une certaine structure. Et la preuve qu'il y a toujours une structure de chambre pour chacun d'entre nous, c'est qu'en fait, au moins certains d'entre nous, dont je suis, peuvent transporter leur structure de chambre dans des villes extrêmement différentes, et s'ils arrivent à reconstituer immédiatement la structure de leur chambre, quels que soient les objets dont elle est remplie, eh bien, l'habitation fonctionne exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'une chambre qui est structurée à 800 km de distance de ma chambre habituelle, si elle est structurée comme ma chambre habituelle, eh bien, en 5 minutes après mon arrivée, je peux l'investir et y habiter. Il suffit qu'il y ait exactement la même disposition structurée entre la table de travail, le lit et certains points de rangement. C'est ce genre de réflexion qui amène à réfléchir sur une chambre qui, à première vue, est entièrement déstructurée, qui est la chambre de la séquestrée de Poitiers, dont j'ai déjà parlé un peu, dont je reparlerai d'ailleurs bientôt. Vous savez, il s'agit, je l'ai dit, de cette femme, Mélanie, qui a été séquestrée soit par sa famille, soit par elle-même, on n'a jamais su, si je puis dire, pendant 25 ans dans une chambre entièrement cadenassée d'une maison bourgeoise de Poitiers. Cela se passait tout à fait à la fin du siècle dernier. Et quand la police est arrivée dans cette chambre, qu'elle en a fait l'inventaire, elle a trouvé un lieu effectivement apparemment entièrement déstructuré, puisque Mélanie a vécu pendant 25 ans sur son lit. Donc la chambre à ce moment-là était absolument et rigoureusement réduite, c'est-à-dire la structure était rigoureusement réduite au lit. Et en effet, le lit peut constituer une structure à soi seul. Dans les hôpitaux, dans les sanats, le sujet peut se reconstituer une structure à la mesure de son lit. Il y a un exemple littéraire, enfin qui peut être très célèbre, d'une structure réduite à un lit, qui est une structure extrêmement confortable, qui est la structure, qui est le lit de la tante Léonie dans Du côté de chez soi, n'est-ce pas ? Bon, c'est un lit, disons, luxueux, puisqu'il est agrémenté d'une table qui le longe, et où il y a différents objets, et puis de la fenêtre, n'est-ce pas, par où elle peut voir dans la rue. Mais le lit de la tante Léonie, c'est une structure, ça fonctionne comme une structure. Alors, pour la séquestrée de Poitiers, c'est le lit qui était la structure, et le reste de la chambre était vraiment un espace rigoureusement à structurer. Il y a l'inventaire des objets qui étaient comme ça jetés à travers cette chambre, qui n'étaient que des déchets, sans place, pour ainsi dire. J'énumère parce que ça donne une idée de cette espèce d'espace de séquestration. Une commode sans tiroir, 4 bouteilles vides, n'est-ce pas ? C'est un inventaire de police, c'est pour ça qu'il est très précis. Une commode sans tiroir, 4 bouteilles vides, 3 boîtes de conserve, un jeu de loto, 2 écrous, une monture de canapé, des loques remplies de vermine, une tête de poupée, un chapelet, 5 bouts de crayon. Et tout ça, donc, représente, je dirais, la déstructuration totale de la chambre. Et c'est donc ça qui est important, finalement, c'est que dans la chambre, le sujet peut produire, il peut produire jusqu'à une non-structure, ce qui est la chose la plus difficile du monde. Il est le maître de déstructurer entièrement l'espace dans lequel il vit. Et donc, nous comprenons que le luxe de la chambre, ça n'est pas le luxe des objets qui sont dans cette chambre, c'est le luxe de sa liberté. La chambre est une structure qui est soustraite à toute norme, à tout pouvoir. C'est, disons, ou ce peut être, par un paradoxe exorbitant, l'unique comme structure. Voilà comment je définirais la chambre. Un modèle, disons, d'anti-cabane, ce que j'appelais la cabane d'Adam, c'est pas la maison d'Adam qui aboutit à la chambre, c'est-à-dire au lieu symbolique de l'intériorité la plus secrète, la plus profonde. Est-ce qu'il existe, dans les représentations historiques de notre civilisation, quelque chose qui peut fonctionner comme un corps de représentation opposé à toutes les valeurs de la chambre? Est-ce qu'il existe une architecture qui nie le quant à soi, qui nie la chambre, qui nie la kella, comme valeur, disons, épicurienne d'intériorité? Eh bien, vous savez qu'il y a eu un débat historique au niveau des arts d'architecture entre, à l'époque classique, entre les partisans de Rome, d'une part, et d'autre part, les partisans des Grecs, qui étaient considérés justement comme des copieurs de cabanes. Les Grecs, l'architecture grecque, disons en gros le Parthénon, qui est en train de s'effondrer d'ailleurs, eh bien, c'est, disons, une cabane, le Parthénon. Hein? C'est une cabane, c'est dans la ligne de la maison d'Adam. Et donc un débat a opposé les partisans des ruines romaines aux partisans des ruines grecques. Et il y a un très grand créateur italien, un graveur, qui représente bien ce débat et qui est Piranèse. On peut dire que les prisons de Piranèse représentent l'anti-cabane. C'est l'anti-cabane, c'est, je n'ose pas dire l'anti-chambre parce que ça serait un horrible jeu de mots, mais la contre-chambre. Et vous notez, n'est-ce pas, si vous avez dans la mémoire les prisons de Piranèse, vous vous rappelez que ces prisons sont extrêmement vastes et qu'elles sont précisément anticellulaires. Elles sont constituées par une espèce de chavirement démoniaque des plans, avec des escaliers qui montent, qui descendent, des cordages qui traînent. C'est vraiment le contraire même de l'intériorité. Et on peut dire que les prisons de Piranèse, c'est l'espace de la crise, l'espace du drame, l'espace du sublime, qui était une notion esthétique de l'époque, n'est-ce pas ? Le mot de Piranèse lui-même à son art convient très bien, à savoir de la terreur jaillit le plaisir, n'est-ce pas ? C'est la définition du sublime. Le sublime, c'est le mélange de terreur et de plaisir. Et c'est ça les prisons de Piranèse. Alors, dans ces prisons de Piranèse, il y a comme une ouverture dramatique, une critique violente du quant à soi et une espèce de d'éjection du fantasme de la chambre, de l'intériorité comme refuge et jouissance, la figuration d'un lieu d'agitation passionnelle, d'une transparence à la fois décorative et hystérique, toutes ces valeurs s'affirmant contre la chambre. Or, en italien, tout cet ensemble de valeurs que je viens de dire a reçu un nom, qui est donc le nom qui s'oppose même à l'intériorité de la cellule, et ce nom, c'est la magnificenza. Enfin, c'est donc le thème de la magnificenza qui s'opposerait, disons, thématiquement au thème de la chambre. Il n'y a pas de chambre magnificente, si vous voulez. Maintenant, un article plus court qui s'intitule « Chef, le chef ». Alors, je redis toujours la même chose, mais je ne saurais pas ne pas le redire. Historiquement, le passage de l'érémitisme au cénobitisme a été assuré donc par ce saint égyptien qui s'appelait Pacôme vers l'an 314. C'est Pacôme qui a fondé le premier couvent de toute la chrétienté et donc qui a fondé le vivre ensemble, le premier modèle de vivre ensemble. Or, le vivre ensemble pacomien, c'est-à-dire le premier couvent de notre histoire, a été marqué immédiatement, c'est-à-dire du temps même de Pacôme, et par Pacôme lui-même, a été marqué par une hiérarchie. C'est-à-dire l'invention du chef de communauté est absolument concomitante à l'invention du couvent. Inventer le couvent, ça veut dire en même temps et du même coup inventer un chef à ce couvent. Et il faut bien voir ceci, n'est-ce pas ? L'anachorétisme, c'est-à-dire les colonies d'anachorètes, l'anachorétisme n'est pas spécialement marqué par la solitude, nous l'avons vu plusieurs fois. Être anachorète, ça n'est pas forcément être solitaire, n'est-ce pas ? Il y a des groupements, des colonies d'anachorètes. Mais l'anachorétisme, c'est marqué, alors immanquablement, par la carence du chef. Dans les colonies d'anachorètes, il n'y a pas solitude, mais il y a absence de chef. Et par conséquent, l'opposition entre l'idiorythmie, d'une part, et le cénobitisme, d'autre part, ça n'est pas l'opposition entre solitude et communauté, c'est l'opposition entre groupement sans chef et groupement avec chef. En effet, dans les couvents fondés par Pacôme, la règle immédiate a été l'obéissance à un chef. Chaque maison de moines avait un chef qui s'appelait le praepositus, P-R-A-E, praepositus. Et de là, en Occident ensuite, les deux fondements du moine, c'est-à-dire les deux données définitionnelles du statut du moine, le moine est un sujet qui est placé sous le pouvoir d'un abbé, toujours, c'est la définition essentielle du moine, il est sous le pouvoir d'un chef qui est l'abbé, et deuxièmement, il est stable, c'est-à-dire qu'il choisit de vivre toujours dans le même lieu jusqu'à sa mort. Alors, naturellement, à partir de cette donnée, à savoir qu'il n'y a pas de couvent sans chef, à partir de cette donnée brute et brutale, il y a eu une élaboration, ou idéologique ou symbolique, appelez-la comme vous voulez. Et cette élaboration, c'est-à-dire cette espèce de conception, cet affinement symbolique du chef, s'est produite en Occident à partir de Saint Benoît, qui a bien défini l'abbé du monastère, du couvent, comme le pivot du monastère, mais en lui retirant précisément la marque répressive d'un chef temporel. C'est là qu'il y a élaboration idéologique ou symbolique, et en définissant l'abbé comme tenant la place du Christ. C'est pour ça qu'on l'appelle comme le Christ, Pater et Magister, c'est le vicaire, le remplaçant, le vicaire du Christ. Alors, le télos de l'institution abbatiale, dans cette élaboration symbolique et idéologique, ça n'est pas, on dit, n'est-ce pas, que ce n'est pas du tout l'observance de la règle, l'abbé n'est pas là pour faire observer la règle, ça n'est pas un chef répressif et contraignant, mais il est là pour assurer le salut des âmes. Et, dit-on, l'affiliation de l'abbé monacal, monastérial, l'affiliation viendrait non pas de l'image romaine de la famille et donc du pater familias, n'est-ce pas ? L'abbé n'est pas quelqu'un, n'est pas une fonction qui descend ou un statut qui descend du pater familias, mais plutôt qui viendrait du modèle ecclésial, c'est-à-dire de l'évêque dans son rapport avec le diocèse. Alors, cette élaboration symbolique, qui est surtout de type bénédictin, quoi, vise évidemment à activer ou à rendre plausible une opposition pertinente entre deux formes de chef, ou disons, deux formes de charismatisme. Deux formes de charismatisme qui sont attestées, ce sont là des réalités symboliques extrêmement anciennes, n'est-ce pas, qui sont attestées précisément dans les langues et dans les langues indo-européennes. C'est pour cela que l'ouvrage de Benveniste, Le vocabulaire des institutions européennes, est un ouvrage si important, hein, et que nous devrions, enfin, nous qui sommes ici dans cette enceinte, en tout cas, nous devrions tous lire. Et en grec précisément, il y avait une opposition de vocabulaire, de lexique, très importante entre deux mots qui réfèrent à des fonctions symboliquement différentes pour le chef. Il y a en grec, d'une part, le mot qui veut dire chef en tant que détenteur d'un pouvoir, et c'est le mot qu'on trouve très souvent dans la langue homérique, de anax, A-N-A-X, A avec un esprit rude, c'est-à-dire une aspiration, donc plutôt wanax, wanax. C'est le chef qui détient un pouvoir. Et puis, en face de anax, il y a le basileus, qu'on traduit par roi, mais il faut préciser, n'est-ce pas, que le basileus, contrairement au anax, c'est presque un dieu, c'est-à-dire qu'il a une fonction de type magico-religieuse. Et la preuve, c'est que l'insigne du basileus, c'est le sceptre, qui est en fait le bâton de marche du messager, qui est porteur d'une parole autorisée par les dieux. C'est ça, basileus. Et de là, vous pouvez diviser ou opposer deux types de charismatisme. Un charismatisme de type militant temporel et presque militaire, celui de anax, et un charismatisme de type plus oriental, ou en tout cas plus grec, où il ne s'agit pas d'un chef au sens temporel, mais plutôt du prestige para-religieux, para-magique, attaché à un ancien qui sert de modèle. Je traduirai volontiers ce deuxième type de chef par la notion hindoue de gourou. C'est un gourou, si vous voulez. Et c'est précisément ce type de précédence, à savoir le gourou, le type gourou, qui est compatible avec les organisations idiorythmiques. Les colonies d'anachorètes se groupaient non pas du tout autour d'un chef ou d'un abbé, mais autour d'un ancien. Et cet ancien, c'était un modèle, et ça n'était pas un chef. Et à l'origine, il n'était pas élu. Il s'imposait dans sa place d'ancien ou de modèle comme précisément une sorte de projection, d'image projective qui allait de soi. Il était dépositaire d'un charisme et non pas d'un pouvoir. Alors évidemment, ce ou de l'ancien implique, si je puis dire, une évidence. Le gourou ne peut s'imposer que par l'évidence. Et il ne peut dépendre d'aucun autre mode de désignation. Et notamment, il serait dérisoire de concevoir qu'il puisse être élu, car l'élection n'est pas une voie d'évidence, si je puis dire. C'est une sous-évidence. Ou pour que l'élection soit une évidence, pour que l'élection d'un chef ou d'un modèle soit une évidence ou rejoigne l'évidence, il faut qu'elle se fasse à 100%. Et d'où le problème juridique que vous connaissez, qui est précisément le problème des élections dans les monastères du Moyen-Âge, où l'unanimité était toujours requise. Il n'y avait pas de vote acquis à la majorité, il fallait toujours atteindre l'unanimité. Et dans les monastères bouddhiques aussi, quand il s'agit de désigner une personne, une fonction, il faut arriver à une unanimité par une série de conversations marquées par la courtoisie. Mais toute décision emportée simplement à la majorité serait évidemment en contradiction avec le charismatisme, avec ce type de charismatisme. Et il faudrait d'ailleurs voir là, revoir un petit peu un texte comme celui du contrat social de Rousseau, n'est-ce pas, pour reprendre tout ce problème de l'évidence, enfin de l'élection à l'unanimité, c'est-à-dire de l'évidence du charismatisme. Alors on pourrait aussi réfléchir sur ce qui se passe dans certains pays très modernes où il y a effectivement des élections de type plébiscitaire qui consistent à plébisciter un chef d'État, par exemple, à 99% des voix, le 1% restant indiquant qu'il s'agit précisément d'une opération laïque et non symbolique. C'est ce qui permet au chef de ne pas être un gourou, puisqu'il lui a tout de même manqué 1% des voix. Donc, ça reste laïque. Alors, je crois qu'on peut donner d'ailleurs à la ligne de partage entre le chef Anax et le gourou une définition moderne que je reprends donc à cet auteur anglais que j'ai cité, Bion, B-I-O-N. Vous avez vu que dans Bion, j'en ai parlé, la troisième hypothèse de base, c'est-à-dire le troisième objectif du groupe, le troisième telos, il y a trois hypothèses de base. Il y a l'hypothèse de dépendance, n'est-ce pas, du groupe par rapport à un leader, l'hypothèse de couplage, l'attitude du groupe par rapport à deux personnes qui forment couple dans le groupe. Et troisièmement, il y a l'hypothèse qui m'intéresse ici et qui est l'hypothèse attaque-fuite. C'est-à-dire que selon cette hypothèse ou cet objectif, le groupe se réunit pour lutter contre un danger. Le groupe se réunit pour lutter contre un danger ou pour le fuir. Et à ce moment-là, le leader, c'est celui dont les exigences donnent au groupe des occasions de fuite ou d'agression. Voilà la définition de Bion. Le leader, c'est celui dont les exigences donnent au groupe des occasions de fuite ou d'agression. Et Bion précise très bien, un leader qui n'attaque pas et qui ne fuit pas est très difficile à admettre. Autrement dit, ce n'est pas un leader. Il échoue dans son statut de leader. Un leader qui n'attaque pas et qui ne fuit pas est très difficile à admettre. Eh bien, je dirais que c'est précisément la position et le statut du second type charismatique que j'ai appelé le gourou. Le gourou, ou l'ancien, le modèle, celui qui est le chef sans être détenteur d'un pouvoir, c'est précisément quelqu'un qui n'attaque pas et qui ne fuit pas. Autrement dit, le gourou ou le basileus, ça n'est pas un leader. Le chef est un leader, mais ce second type de chef n'est pas un leader. Le chef, c'est effectivement celui qui prend des décisions. J'en donne deux exemples, toujours un peu dans mon corpus. Enfin, là, il s'agit d'un roman qui n'est pas vraiment dans mon corpus. J'avais pensé à un moment le prendre comme texte tuteur parce qu'il est très riche pour tous ces problèmes de vivre ensemble, mais c'est un roman tellement dur que je n'en ai pas eu le courage. C'est le roman de Golding, Lord of the Flies, le Seigneur des Mouches. Vous savez que c'est l'histoire d'une troupe d'enfants qui est déposée au cours d'un accident d'avion sur une île déserte, et c'est la vie en communauté, comment cette troupe d'enfants s'organise pour vivre ensemble, justement. Et au début, il y en a un qui s'appelle Ralph, qui dit, quand les enfants se retrouvent, après s'être cherchés sur la plage, ils se retrouvent, et Ralph dit, « Moi, je trouve, n'est-ce pas, c'est vraiment la première réaction du groupe, donc c'est un groupe très bionesque, si je puis dire, très selon Bion, moi, je trouve qu'il nous faudrait un chef pour prendre les décisions. » Et tout le monde crie, « Un chef, un chef !» « C'est moi qui devrais être le chef, » déclara Jack, avec une arrogance toute simple. « Parce que je suis premier enfant de cœur, » n'est-ce pas, c'est une troupe d'enfants d'une maîtrise qui va chanter comme les petits chanteurs à la croix de bois. Donc je devrais être le chef parce que je suis premier enfant de chœur et ténor de la maîtrise. Je monte jusqu'au do dièse. Et le deuxième exemple, alors c'est dans la montagne magique, c'est-à-dire dans l'univers sanatorial, le chef c'est évidemment le médecin, parce que c'est lui qui prend les décisions sans les expliquer. C'est un tout autre sujet, il faudrait s'occuper, nous l'avons fait une fois dans un petit séminaire de l'école des hautes études, du discours médical, n'est-ce pas, et voir comment 90% des médecins, encore aujourd'hui, se mettent en position de leader, de chef, parce que précisément, en grande partie, ils n'expliquent pas. Bon. De même, quand vous prenez l'avion, l'hôtesse se met en position de cheftaine, si je puis dire, ou chefresse, parce que s'il y a un retard, elle n'explique jamais. Bon, mais enfin, ça, c'est un autre problème. Et donc, le chef dans un hôpital ou dans un sana, c'est le médecin. Et je cite, « Ainsi donc, Hans Castorf était-il au lit depuis samedi après-midi parce que le docteur Behrens, c'est-à-dire le médecin-chef, la suprême autorité dans ce monde où nous sommes enfermés, en avait ainsi décidé. » Et c'est précisément à ce type de chef que s'oppose le sujet charismatique que j'ai appelé, pour simplifier, le gourou. Précisément, en ce que le gourou n'attaque pas et ne fuit pas, en ce qu'il ne prend pas de décision. Et là, on retrouverait alors une très grande pensée asiatique qui n'est pas la pensée bouddhique, pourtant a fourni l'image même du gourou, n'est-ce pas, qui serait la pensée Tao. Et je finirai sur deux citations du Tao qui, à mon avis, circonscrivent très bien le statut du second type charismatique que j'essayais de décrire, qui est le type donc de charismatisme qu'on trouverait dans les groupements idiorhythmiques. Ces citations sont les suivantes. Premièrement, le sage ne lutte pas. Ainsi ferait le gourou d'un groupement idiorhythmique, il ne lutterait pas. Et deuxièmement, le Tao n'est pas difficile, sauf qu'il évite de choisir. Voilà. Je ne vais pas commencer un nouvel article. Ça sera donc pendant 15 jours un article assez long qui concerne la clôture.